Hier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il donnait une aide de 200 millions de dollars US au Cirque du Soleil. Et pour en discuter, on reçoit à l'instant celui qui est ministre de l'Industrie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon. Bonjour.
Bonjour, M. Duhem.
Monsieur Fitzgibbon, d'abord, vous avez annoncé hier une aide de 200 millions. Quel type d'aide c'est, là? Est-ce que c'est un investissement? Devenez-vous actionnaire ou c'est un prêt ou c'est une subvention? De quoi on parle quand on parle de 200 millions, là?
On parle d'un prêt qui va être en haut de la pyramide. Donc, une des conditions, il y a plusieurs conditions. Donc, c'est un prêt, pour répondre à votre question, qui est relié à des conditions financières à l'effet que le niveau de dette du cirque va être très, très, très inférieur à ce qu'il a présentement. Et nous serons le premier créancier.
Parce que là, on dit qu'il y a 1 milliard de dollars de dette pour le Cirque du Soleil. C'est bien ça?
Présentement. C'est le cirque 1.0. Dans 2.0, il n'y aura pas cette dette-là.
OK. Le cirque, présentement, est-ce qu'il appartient principalement à des Américains pas à des Chinois?
Le cirque, présentement, appartient à 55 % le fonds TPG, 25 % le fonds Fosun et la différence, 20 % par la Caisse de la population du Québec.
OK. Ça veut dire qu'à 80 % c'est des Américains et des Chinois.
Exact.
OK. Est-ce que c'était le rôle du gouvernement? Quand vous avez reçu ce dossier-là, là, comment vous êtes arrivé à la conclusion que c'est le rôle du gouvernement du Québec de prendre l'argent de l'ensemble des contribuables qui nous écoutent puis de prêter ça au Cirque du Soleil?
Mais premièrement, faut qu'on notre perspective, c'est que le cirque est un élément moteur de la grappe de la créativité culturelle au Québec. On parle de 1500 emplois bien rémunérés. Alors pour nous, c'était essentiel de voir le cirque être relancé sur des fondations québécoises. Donc ce que nous faisons, c'est que les conditions financières sont telles qu'il n'y aura pas beaucoup de dettes, donc on peut considérer le prêt comme étant sûr. Nous ne voulons pas gérer le Cirque du Soleil, ne vous inquiétez pas. Et au niveau aussi financier, on a négocié que quand TPG et Fosun vouloir vendre leurs actions, nous allons être le premier acheteur, potentiellement, et plus loin que ça, il y a un moment dans le temps où on va pouvoir même acheter de nous-mêmes les actions pour les transférer possiblement à des acteurs canadiens.
Mais M. Fitzgibbon, ce qu'on a de la misère à comprendre, là, c'est que ça va revenir à peu près à 200 000 $ canadiens par emploi. C'est énorme, là, le prêt que vous venez de leur concéder, puis on n'a aucune garantie qu'on va être remboursé. Là. C'est ça qui fait faillite, on vient de perdre 200 000 $ pour chaque job, là.
Moi, mais écoutez, je pense qu'il faut faire attention. Vous avez, en entrée, vous avez dit, êtes-vous investisseur en équité, êtes-vous prêteur ou êtes-vous une subvention? Ce n'est pas une subvention. Une subvention, votre calcul est adéquat. Moi, je pense que c'est un instrument financier qui est très bien fait. Bon, c'est dur à juger parti, vous allez me dire, mais très bien fait. Il y a une rémunération sur le capital qu'on investit. Et vous avez raison. Si le Cirque du Soleil, ça vaut zéro, ben, on a mis 200 millions à investir. Moi, je pense que c'est un peu dramatique de dire que le cirque vaut zéro. Le cirque, ça a une valeur importante. Il ne faut pas oublier que le Cirque du Soleil, avant le COVID, avait une profitabilité supérieure à ce qu'il avait en 2015 quand M. Dalté l'a vendu. C'était très profitable. Maintenant, la question, c'est ça vaut quoi aujourd'hui? Moi, je pense qu'on peut être relativement sûr que ça vaut au moins l'investissement ou le prêt que nous allons faire.
Merci.
Deuxièmement,
oui, allez-y. Non, mais j'essaie de comprendre pourquoi. Parce que là, il y a plein de petites entreprises ici à Québec là, qui n'auront pas un aide de 200 millions, puis ils n'auront même pas une fraction de ça, puis il y en a une gang là-dedans qui vont faire faillite. Ça serait pas plus rentable que vous ayez donné une baisse d'impôts puis créer un climat favorable pour les autres entreprises? Parce que là, vous donnez de l'argent à des entreprises que vous choisissez, puis les autres vont devoir payer. C'est ça le problème, c'est que vous choisissez des gagnants, mais vous faites beaucoup de perdants quand vous prenez un choix comme celui-là, M. le ministre.
Je pense que, si vous me permettez, je vais être d'accord avec vous dans le sens suivant. Premièrement, cet agent-là, moi, je suis convaincu qu'on va le revoir. Puis en passant, si je pouvais, je ne peux pas, j'investirais des fonds personnels dans cet instrument financier-là. Vous allez voir un jour, on va voir le divulguer. C'est un peu encore confidentiel. C'est des négociations. C'est un très bon instrument financier pour lequel le gouvernement du Québec devrait revoir son argent, premièrement. Deuxièmement, vous avez raison. Absolument raison qu'il y a beaucoup d'acteurs économiques qui ont besoin de liquidités, qui ont besoin de soutien par le gouvernement. Un n'empêche pas l'autre. N'oubliez pas qu'on a mis un programme de pacte PACTE de 2,5 milliards. On est rendu à 1,5, à peu près 1,6 avec le CIT. Il y a encore de l'argent qui est disponible pour ça, pour des prêts, pour, dans certains cas, ça va être des prêts, pardon. Alors moi, je pense que un n'empêche pas l'autre. Je pense que c'est pas correct de dire parce qu'on met 200 millions là, on l'a pas pour le mettre ailleurs. Le gouvernement du Québec, on est très, très commis. Le mot austérité ne sera pas présent dans le vocabulaire. On va aider tout le monde.
Monsieur Fitzgibbon, j'ai l'impression d'entendre le Parti libéral il y a quelques années quand ils ont mis 1 milliard US dans Bombardier. C'était supposé être la meilleure chose au monde, puis on sauvait Bombardier. Aujourd'hui, Bombardier est en train d'être démantelé en morceaux. Les actionnaires sont gros gens comme devant. Ils ont acheté ça à coût de 5 piastres. Ils vont revendre ça à coût de 25 cents. Puis pendant ce temps-là, les dirigeants se sauvent avec Monsieur Bellemare. Il est parti avec quoi? Le 18 millions de primes de départ. Vous avez pas peur qu'on... Il me semble qu'on a déjà assez joué dans ce film-là au Québec. C'était-tu obligé d'avoir un nouvel épisode puis une nouvelle série?
Écoutez, le débat est sur l'effet moteur qu'une société peut avoir. Bon, par exemple, dans le cas de Bombardier Airbus, moi, je suis très fier de la transaction qu'on a faite. On a maintenant 25 % d'une co-entreprise dans laquelle le milliard a été investi. On l'a restructuré. Honnêtement, je pense que ce milliard-là, on va le revoir. Alors, de dire qu'on a dilapidé la dette publique, je pense que c'est un peu dur. Bon, je vais vous accorder que l'industrie aérospatiale, ça va être difficile dans quelques années. Le programme du A220, moi, je pense que ça va être un programme avec un très grand succès et qu'on va revoir l'argent. C'est la même chose. Le 200 millions US qu'on a mis là-dedans, qui va réduire, by the way, je vais probablement en vendre une partie à d'autres acteurs québécois. Il y a beaucoup de monde qui vont vouloir avoir cet instrument-là. On va revoir cet argent-là, moi, je suis convaincu. Alors, on protège des emplois rémunérés, on protège des choses importantes. Mais vous avez raison, faut pas que les gens pensent que, premièrement, le 200 millions, là, il s'en va pas aux créanciers. Il s'en va pas aux actionnaires. Il s'en va dans le cirque, payer des employés du Québec qui vont travailler et qui vont remettre le cirque sur la bonne voie. Ça, c'est important de noter.
Ça ne sera pas les Chinois et les Américains qui vont partir avec l'argent, là. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas investi une scène hier, là. Ils ont reçu 200 millions, mais eux autres n'ont pas mis une scène, là.
Écoutez, bon, il y a des négociations présentement. Je vais vous dire deux choses. Le 200 millions, il n'y a pas un sou qui s'en va aux créanciers, aux Chinois ou aux Américains. Ça, je peux vous le garantir. Sinon, ce serait l'incompétence de part du gouvernement. Deuxièmement, l'argent que le cirque a besoin pour repartir est plus élevé que 200 millions. Alors, il va falloir que d'autres argents soient mis et il y a des conditions qu'on a mises à ce fait-là. Puis vous allez voir les actionnaires existants, s'ils gagnent, parce qu'en passant, rien qu'empêche M. Pelado ou M. La Liberté de surenchérir. Il faut être très clair. Donc, le gouvernement n'a pas choisi le cirque, les actionnaires existants. On a juste mis des conditions qui nous semblent très favorables.
Parlons-en de M. La Liberté parce que le gouvernement a acheté. Puis, un matin, dans le journal, là, on donne une chronologie qui n'est pas très flatteuse pour les gens qui travaillent à votre ministère. Là. On a l'impression qu'on s'est fait avoir gros gens comme devant au mois de février, alors que la COVID était déjà partie, alors que des spectacles étaient déjà annulés en Chine. Nous, on a continué d'acheter au gros prix, même si on aurait pu se retirer. Puis, pendant ce temps-là, Guy Laliberté s'est reviré de bord. Il a pris cet argent-là, puis il est allé mettre dans un paradis fiscal. Comment vous pouvez justifier ce qui s'est passé au mois de février dans votre ministère, monsieur?
C'est vraiment un correctif, M. Duhem, c'est pas notre ministère, c'est la Caisse de dépôt.
Ben, c'est le gouvernement, pardon.
Ben, le gouvernement. La Caisse de dépôt, comme vous savez, a une autonomie. Okay. Monsieur
donc, vous auriez pas fait ça. Vous voulez vous distancer d'eux, c'est ce que je comprends de votre réponse.
Non. En fait, j'ai pas tous les renseignements. Faut pas oublier, M. Liberté l'a mentionné, tout le monde en parle dimanche soir, je l'ai écouté, qu'il a commencé à négocier la transaction au mois d'octobre, je pense, 2019. Et la transaction a été complétée avant le confinement. Alors, je ne vais pas dire que la Caisse a eu raison ou 8 heures. Ce n'est pas à moi de juger ça. On parlait d'investissement Québec, ça, c'est ma responsabilité. La Caisse des dépôts n'est pas ma responsabilité. Mais je pense qu'il faut quand même regarder la chronologie. Et quand la transition a été faite, c'était avant le confinement puis avant l'arrêt complet. Parce que vous avez raison, le cycle a arrêté sur une scène début avril. Oups, c'est plus de lumière. On sort de la maison. C'est arrivé quand même après un peu. Bon, vous allez me dire, la pandémie avait commencé en Chine, vous avez raison, mais bon.
Il y avait des spectacles d'annulés déjà. Et l'autre truc aussi, puis les paradis fiscaux, je veux que vous me parlez de ça, parce que le cirque, pendant des années, s'est mis à l'abri, justement, du fisc au Québec. Parce qu'on est un enfer fiscal, on va se le dire. Ils sont allés se mettre dans un paradis. Et Guy Laliberté, lui-même, personnellement, avec ses centaines de millions, a fait la même chose. Il n'y a pas quelque chose d'un peu indécent pour le contribuable qui nous écoute puis qui paye de voir que ces richissimes personnes qui placent tout ça à l'étranger, pour sauver de l'impôt. Quand ça va mal, ils viennent nous voir, puis c'est les contribuables qui payent de l'impôt qui sont obligés de passer à la caisse.
Je pense qu'il faut différencier, M. Duhem, l'actionnaire de la société dans laquelle vous l'investissez. Moi, je suis à l'aise parce que le Cirque du Soleil a toujours payé ses impôts au Québec et au Canada et va continuer à le faire. Donc, le cirque dans lequel nous sommes prêteurs.
Mais ils ont créé des sociétés par avant à l'étranger. Là. Vous connaissez ça mieux que moi, M. Fitzgibbon.
Mais aujourd'hui, je peux vous dire, le Cirque du Soleil, comme entité, aux actionnaires, comme entité, clairement, les impôts ont été payés ici. C'est une exigence, parce qu'effectivement, vous avez raison. Quand on regarde le gouvernement qui va aider les sociétés, il y a deux choses que je regarde. Est-ce que la société paye ses impôts dans la communauté qui la supporte. Vous avez absolument raison. Puis deuxièmement, est-ce que les dirigeants ont des rémunérations inacceptables? Dans les deux cas, dans le cas du cirque, nous sommes confortables. Maintenant, les actionnaires du cirque, on a des Chinois, Fosun, on a TPG, comment eux gèrent leur impôt? Honnêtement, c'est très difficile pour moi de juger, mais de même comprendre. Puis c'est pas une raison, mais tous les fonds d'investissement, la caisse a été là-dedans aussi, ont tous souvent des détentions dans des d'autres juridictions. C'est quelque chose qui va devoir être adressé par l'OCDE, puis il y a beaucoup de tensions justifiées de la part des différentes communautés de dire qu'on devrait corriger ça. Mais je pense que c'est important pour aujourd'hui de dire que le site du soleil est parfaitement bien organisé au niveau légal pour que les impôts, quand ils vont en payer, on l'espère, hein, ils n'en payeront pas tout de suite, soient payés au Québec, au Canada. Moi, sur ça, je suis confortable. Okay.
Je veux, parlant de conflit, on a l'impression aussi qu'il y a un conflit entre deux personnes qui veulent se porter acquéreur du cirque. D'un côté, Guy Laliberté, qui voudrait retrouver sa place, et de l'autre côté, Québécois, qui voudrait entrer dans le cirque. Le gouvernement du Québec, il se situe où dans cette valse-là, lui?
Moi, là, honnêtement, j'ai parlé aux deux groupes. Et le support financier que le gouvernement du Québec est prêt à accorder, nous pourrions l'accorder à un ou l'autre si les conditions québécoises sont respectées. Et nous, on n'a pas à juger. Moi, j'ai pas à juger qui est le meilleur opérateur du site québécois, Monsieur Laliberté ou le management actuel. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de dire voici ce qui est important pour le Québec. Voici les assises que je veux voir pour le cirque. Là, après ça, si M. Pelladeau ou M. Laliberté gagnent, entre guillemets, le processus, puis ils viennent nous voir, puis ils respectent les conditions, on va leur prêter de l'argent aussi. Moi, je suis différent propriétaire. Moi, je veux que le Québec soit bénéficiaire.
Je veux changer de sujet rapidement avant de vous laisser aller. Je veux vous parler des Îles-de-la-Madeleine parce qu'on va parler au maire dans quelques minutes, tout de suite après vous.
Oui.
Puis là, les Madelinos, comme bien des gens dans bien des régions du Québec, sont inquiets au niveau du tourisme. La saison touristique qui commence, surtout avec la canicule qui arrive tôt.
Oui.
Puis un voyage aux îles, ça se planifie pas 24 heures d'avance. Il faut réserver son bateau, son avion, son hôtel. Là, on a beaucoup d'incertitudes. C'est extraordinairement important pour certaines régions du Québec, la saison touristique estivale. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer ces gens-là? Est-ce qu'il va y avoir une saison touristique? Puis allez-vous enfin donner des dates? Vous n'êtes pas obligé de dire que ça va rouvrir tout de suite, mais au moins qu'on sache quand pour qu'on puisse commencer à planifier puis que le monde puisse commencer à réserver puis s'organiser.
C'est une très bonne question. Puis je suis en conflit d'intérêt parce que moi-même, je vais aller aux îles au mois d'août. Alors, j'ai intérêt à ce qu'on rouvre les îles le plus vite possible. Alors, écoutez, avec Caroline Proulx, ma collègue, on est carrément là-dedans présentement. Je parle à Jonathan Lapierre, je parle au CTMA aussi. On est très soucieux. Et effectivement, je pense pour la santé mentale des Québécois, incluant vous et moi, de pouvoir se promener dans le Québec, le tourisme intra-provincial prend une importance qu'on n'a jamais vue. Alors oui, on est sur ça et je pense qu'il va y avoir des annonces qui vont être faites relativement rapidement. Là, la question, par contre, qui est plus complexe dans le cas des îles, comment on va s'y rendre? On peut se rendre en bateau.
Est-ce que le transport maritime va être autorisé pour les gens qui viennent de l'extérieur? Comment vous allez faire ça? Puis quand est-ce que vous allez nous annoncer un plan? Parce que vous n'êtes pas obligé de nous dire la date tout de suite, mais est-ce que ça va être au cours des prochains jours, des prochaines heures?
Bien, Caroline va vous faire une annonce probablement cette semaine, la semaine prochaine, pour différents plans touristiques. Il y a différents sous-secteurs. Ouais. Le transport, c'est un peu plus complexe. Le transport maritime, c'est fédéral. On leur parle. M. Trudeau a décidé qu'il n'y a plus de croisière. Donc, techniquement, c'était CTMA qui partait de Montréal, qui s'en allait à Québec, puis aux îles, ne peut pas opérer. Il y a des traversiers qui partent de Souris, Trévis-Édouard. Il y a des avions. Si c'est Air Canada, vous pouvez regarder des avions qui vont voler sur les îles de la Madeleine. Mais aujourd'hui, ils ne volent pas aujourd'hui. On s'arrange pour travailler ça parce qu'effectivement, dans le cas des îles, c'est bien beau qu'on va aller se promener là-bas, mais si on n'a pas moyen de transport, on ne peut pas y aller. Alors, on est sûr de ça. Monsieur Lapierre, vous en parlez. On lui parle régulièrement aussi. On est très, très sympathique à ça. Et je pense que dans les prochaines semaines, on va lancer des choses.
C'est 100 millions par année pour les îles, pour l'économie des îles. C'est hyper important. OK, bien, M.
Fitzgibbon... Dites à M. Lapierre qu'il nous accueille aussi, par exemple. C'est un enjeu de bord. Il faut qu'il nous accueille. Les gens de Montréal ont plus...
Non. Les gens de Montréal, je comprends qu'ils ne veulent pas y voir, mais moi, je pense aux gens de Québec, M. Fitzgibbon, ou des régions où il y a moins de cas. Les régions à l'extérieur de la zone rouge.
Je comprends. Très bien.
Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie. Toujours un plaisir de vous parler. Merci d'avoir pris le temps de jaser nos auditeurs.